Là, on arrive à l'endroit où il y a eu l'accident, le seul accident qu'il y a eu à l'ouverture de la ligne en 1907, je crois, si je ne me trompe pas. C'était lors de l'inauguration.
Même pas l'inauguration, les essais en charge du pont Giscard. C'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient un test pour savoir si le pont il supportait un train chargé. Il y a eu une mauvaise manipulation et le train est parti sans le conducteur. Donc ça freine beaucoup moins bien. Quoi. Tous les gens qui ont construit le train, tous les ingénieurs là, sont morts dans cet accident. Voilà, quand on va sortir de la courbe suivante, on va arriver sur le pont Giscard, qui est un pont suspendu. C'était un des premiers ponts suspendus de ce sort avec des tirants. On va passer 80 mètres au-dessus de la tête. Tient que par des câbles qui sont ancrés de chaque côté de la montagne. C'est un peu la même architecture que celui de Brooklyn, mais beaucoup plus vieux. Quoi.
Ça, c'était quelque chose d'exceptionnel pour l'époque de construire ça ?
C'était quelque chose d'exceptionnel. C'est un disciple de Eiffel qui a fait Giscard, qui était un des élèves de Eiffel qui a fait le pont. C'est les deux ouvrages d'art, le Séjourné et le Giscard, sont deux ouvrages énormes pour l'époque. Quoi.
Le XXe siècle est arrivé en Cerdagne avec le train jaune. C'est-à-dire, jusque-là, nous étions un pays agricole, artisanal, politiquement très conservateur, et à ce moment-là, tout va évoluer. L'époque actuelle, nous la devons au train jaune. Et beaucoup d'ouvriers qui ont travaillé dans le train jaune se sont fixés dans le pays. Et alors, le train a joué aussi un rôle considérable au niveau politique, parce que nous étions un pays conservateur, catholique bontain, vraiment pas révolutionnaire pour dessous. Et subitement, nous arrive une population de plusieurs milliers d'ouvriers. Quand même, nous sommes au moment de la charte d'Amiens, au moment où le monde syndicaliste, le syndicalisme révolutionnaire est excessivement actif. Et nous arrive donc un personnel, un monde que nous ne connaissions pas. Et ça va créer un étonnement terrible. On voit par exemple, le pays est absolument affolé en voyant des manifestations avec les drapeaux rouges en tête. On n'a jamais vu ça. Et par la suite, la construction du train jaune nous met des milliers d'ouvriers sur place, mais quand la ligne est finie, il y aura des cheminots. Et à ce moment-là, il y aura plus de 100 familles qui vivront autour du train jaune. Et donc tout ce monde-là est en général marqué à gauche. Donc ça va modifier nos comportements politiques dans le pays. Et nous aurons même, par exemple, dans les années 30, on va avoir une municipalité communiste en Vetch. Situation tout à fait impensable quelques dizaines d'années avant.
La Cerdagne, c'était très très pauvre avant la création du train. Le train a vraiment désenclavé ce côté-là.
La compagnie qui a créé le train jaune a aussi créé la ville de Font-Romeu qui n'existait pas. Donc elle a créé le Grand Hôtel pour lancer du tourisme à partir du train. Pendant des années, le train était mélangé voyageurs et marchandises, mais transporté essentiellement des marchandises. Ça s'est arrêté en 1974.
Et maintenant, transporte qui le train jaune ?
Ça dépend des périodes de l'année, mais en saison estivale, ça doit être de l'ordre de 80% de touristique et 20% de service public.
Georges Bartoli, vous êtes l'un des fondateurs du comité des usagers du train jaune. Il représente quoi le train jaune pour les personnes de ce comité ?
Il a une double signification, à la fois bien sûr, évidemment patrimonial, historique, j'irais presque identitaire si le mot n'était pas aussi connoté, mais il représente aussi un moyen de service public important, un moyen qui a permis au haut canton des Pyrénées-Orientales d'être rattaché à la République en 1904 et en 1924 quand on a ouvert la ligne. Et aujourd'hui, c'est encore cet enjeu qui est l'enjeu principal, c'est que s'il n'est plus question de nous rattacher à la République, il est au moins question qu'on ne soit pas largué par la République, que la continuité territoriale continue à être effective sur ce territoire difficile.
Et pourquoi avoir fondé un comité des usagers, justement ?
Mais parce que justement, paradoxalement, il n'y a plus beaucoup d'usagers. Et il n'y a plus beaucoup d'usagers parce que la SNCF, depuis des années, encouragée, y compris par la région, à s'aborder le train jaune en compliquant les correspondances, en gonflant les tarifs, en supprimant les circulations. Et que donc, petit à petit, ils ont voulu faire en sorte que ce train ne soit plus un train de service public, mais un simple train touristique. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est justement, nous, habitants essentiellement des Hauts-Cantons, mais pas que, parce qu'il y a des tas de gens qui n'habitent pas dans le Haut-Canton qui ont rejoint le comité, mais ce qu'on voudrait, c'est justement que ce train jaune redevienne un train de service public d'intérêt touristique. Et donc, il fallait aussi un peu sortir de la dualité du conflit entre les syndicats, la CGT notamment, qui était le syndicat majoritaire sur la ligne, et la direction régionale. Toute l'histoire de ce train jaune est ponctuée de conflits, parfois très durs, qui sont allés jusqu'à des révocations de cheminots, à des choses difficiles, et dans lesquelles finalement il y avait un tête-à-tête ou un mano à mano, comme on dit ici, entre la direction de la SNCF et les syndicats. Et bon, et finalement, ce train jaune, il n'appartient pas aux cheminots, il appartient à la nation, il appartient bien sûr aux cheminots, mais il appartient aux usagers, il appartient à la nation. Et c'était important aussi qu'on entende la voix des gens pour qui il a été fait. Il n'a pas été fait pour que des cheminots y travaillent dedans, même si c'est nécessaire, bien sûr. Il a été fait pour que des gens y circulent avec lui, montent et descendent de Cerdagne, du Cap-Cyr, vers la plaine.
Là, on arrive à Montbouy. Et donc là, on voit qu'en arrivant ici, ça y est, le paysage s'ouvre, on voit loin. On commence à avoir la vue sur la chaîne des Pyrénées, vraiment. On va pas tarder à voir l'Espagne. Et ça, c'est une très très belle partie de la ligne du train jaune. Louis la tour de Carole. C'est peut-être vu comme moins spectaculaire par les voyageurs, mais tous ceux qui l'apprennent ne le regrettent pas. C'est vraiment un régal des yeux là.
Messieurs là, bonjour, je vais vous regarder les tickets s'il vous plaît. Merci. Allez, voilà, merci. Merci monsieur. Allez, retour. Voilà, merci.
Moi, j'habite à Matemal, c'est dans le Haut-Canton. Pour moi, il est pratiquement impossible de prendre le train dans la journée pour descendre à Perpignan et remonter le soir. Il y a 100 ans, ce train mettait une heure de moins qu'aujourd'hui. Avec un temps de transport de 2 heures entre Villefranche et la Tour de Carole, qui est à peu près le temps qu'on met sur la route, il deviendrait un service public efficace, écologique. N'oublions pas qu'il fonctionne avec de l'électricité qui est produite sur place. Donc son impact carbone est absolument négligeable, pour ne pas dire nul. Donc on est en plein dans la cohérence de l'agenda 21 et de la conférence climat. Donc moi, je ne peux pas prendre ce train jaune aujourd'hui. Seuls les touristes ou les gens qui font ce voyage magnifique, d'ailleurs, et c'est très bien, heureusement qu'ils sont là, les touristes, parce qu'ils abondent financièrement les caisses de la SNCF, eux seuls, aujourd'hui, peuvent prendre le train. Et nous, on réclame que, via une modernisation bien calculée, ils puissent redevenir une alternative crédible à la route. Si vous avez pris la route 116, et même si elle a été sérieusement améliorée...
Donc la route 116, c'est celle qui...
La route nationale, qui suit la voie du train jaune, en fait. C'est une route qui, l'hiver, peut être fermée pour des raisons d'enneigement, parce qu'il y a des éboulements, parce qu'il y a des semi-remorques qui montent le carburant à l'endort, qui roulent à 30 à l'heure et qui des fois se mettent en travers dans les virages et qui bloquent toute la route. Pour toutes ces raisons, nous on pense que le train jaune à côté, c'est un plus, c'est un équipement. C'est pas un gadget, c'est pas un luxe, c'est un équipement du territoire qui est utile.
Joël, là, vous avez laissé les commandes à votre collègue. On est passé de la cabine du conducteur à la voiture découverte. Ça fait quel effet ?
Ah ben c'est pour nous, c'est très très rare, à part quand on y vient en tant qu'usager. Sinon, on ne peut jamais faire un tour de barque. Hein. Donc là, j'en profite que aujourd'hui on était deux conducteurs sur le train pour venir faire un petit tour. On va prendre l'air. En plus, il fait très chaud, on sera bien là. Et voilà, donc on va profiter un peu du paysage comme un usager classique.
Hein. Et vous ne retombez pas un petit peu en enfance là ?
Si, ça fait très longtemps. Moi, ce train, je l'ai pris... quand j'étais petit, parce que mes parents étaient chefs de gare en gare d'Auxéja à l'époque, et mes grands-parents habitaient Montlouis.
Et donc pour aller chez ma grand-mère, on prenait le train. Donc en fait, quand c'était l'été, on prenait les découvertes. Sinon, on montait en cabine avec le conducteur, puisqu'on connaissait déjà. Et c'est peut-être ce qui a créé une vocation, quoi.
Là, le train jaune évolue, il s'est modernisé. Est-ce que vous y trouvez toujours votre compte?
Alors sur l'ancien matériel, oui, je trouve toujours mon compte. Le nouveau matériel est certainement du très bon matériel, mais il n'est pas adapté à notre ligne du tout. Il y a beaucoup d'électronique embarquée et le captage de courant, il n'est pas régulier sur le train. C'est un peu comme si vous preniez votre ordinateur et que vous amusiez à le brancher, le débrancher, le brancher, le débrancher. Au bout d'un moment, ça casse. Et les fortes différences de température ne l'aident pas. Celui-là de matériel, il a 100 ans, il a fait ses preuves et on peut toujours se sortir du milieu avec celui-là. Le nouveau matériel est beaucoup moins confortable, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il tape beaucoup plus, on est mieux installé, il y a la clim, c'est sûr que ce sont des choses qui ne sont pas négligeables. Mais après, moi, je préfère beaucoup travailler sur celui-là, et je dirais 100% des collègues aussi, quoi. On a beaucoup de personnes qui, en été, attendent le train suivant pour ne pas prendre le nouveau matériel. D'ailleurs, depuis cette semaine, il va rester au garage les 2 mois d'été et ne ressortira qu'en fin de saison.
Et puis celui-là, il ressemble un peu à un jouet, non?
Ah voilà, celui-là, c'est l'aspect folklorique du train. C'est les petites pièces. Il a un son caractéristique qu'on n'a pas le nouveau. Et donc, on se balade vraiment, vraiment dans la nature, hein, tranquillement.
Où est-ce qu'on arrive, là, Joël?
Alors là, on arrive en gare d'Auxéja. Pour moi, cette gare, elle a une saveur particulière parce que c'est là où j'ai vécu toute mon enfance. Ma mère était chef de gare à Auxéja. Donc, jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai habité dans cette gare. Donc, un peu tous les alentours, les recoins de la gare, je les connaissais. Il y a un wagon de marchandises qui est abandonné, c'était notre cabane avec mon frère. Et là, sur le bord, on passe, c'était le jardin de mes parents. Il y a un cerisier énorme, on l'avait planté quand on était jeune, donc il y a une quarantaine d'années maintenant. Mon père nous l'avait fait planter, et chaque fois que je passe, je le revois, quoi. Ça me rappelle des souvenirs.
Comment est-ce que vous le voyez, le train jaune, quand vous étiez enfant?
Alors, je le voyais passer comme... on voyait ça passer tout le temps, on le regardait passer avec mon frère quand ma mère travaillait. Et puis pour nous, c'était le moyen d'aller promener. On allait chez mes grands-parents avec. C'était un gros jouet devant la maison, quoi.
C'est un jeu de conduire le train jaune.
C'est pas un jeu, mais c'est un plaisir. Disons que le train jaune, ça reste vraiment un endroit où on conduit, où on travaille. À l'ancienne, en passant d'écran, en changeant, et puis c'est de la bonne mécanique.
Philippe Charlot, directeur régional de la SNCF en Languedoc-Roussillon.
L'avenir du train jaune, je ne pense pas qu'il soit mis à mal. Il faut trouver les ressources financières pour permettre les investissements nécessaires. La voie, comme le matériel, je vous l'ai dit, date du début du XXe siècle. Donc aujourd'hui, on arrive au bout d'un cycle. Il faut mobiliser l'ensemble des acteurs intéressés par le train jaune pour faire un tour de table financier, mais également pour définir un vrai projet pour le train jaune.
Parce que c'est une ligne qui n'est pas rentable, le train jaune?
On ne pose pas la question comme ça. Hein. Le service public ferroviaire, par définition, n'est pas rentable. Le voyageur aujourd'hui ne paie que à peu près 25% à 30% du coût réel de son billet. La différence est versée par la région et tout ça dans le cadre donc, de la convention d'exploitation TER.
Donc ça coûterait combien de le remettre à neuf?
Bon, on estime qu'une fourchette entre 120 et 150 millions est quelque chose de réaliste.
Vous voudriez le garder au sein de la SNCF, ce train?
Bien sûr, la question ne s'est jamais posée en ces termes. Hein. La SNCF est attachée à ce type de train. Elle en exploite plusieurs, soit directement, soit indirectement, que ce soit l'Express Mont-Blanc entre Saint-Gervais-Valorcine, que ce soit les chemins de fer de la Corse où nous avons une assistance technique, ou que ce soit celui-ci. Oui, nous sommes partisans de le conserver et de le développer. Parce qu'à la fois, c'est un produit certainement de niche, mais c'est un produit qui est vraiment fantastique. C'est assez lié à l'histoire de la SNCF. C'est une façon aussi de découvrir des territoires assez extraordinaires, assez magiques. Hein. Quand vous prenez les barques et que vous passez au-dessus du viaduc ces journées, ou que vous découvrez les plateaux cernants au virage de Font-Romeu, c'est fantastique.
Thank you.
pas Joël, ça fait 3 heures qu'on roule là. On voit le soleil qui se couche derrière les montagnes. On arrive là.
C'est ça, on arrive à gare de la Tour de Carole, donc c'est le terminus du train jaune.
Et après
on va éteindre le train, on va le ranger pour la nuit. Et on va aller au foyer pour aller se restaurer et dormir avant de reprendre le travail demain matin. Alors ce soir, au minimum, déjà, on sera 2 équipes de Catalans. Je ne sais pas si les Toulousains mangent avec nous. Mais normalement, les collègues qui sont arrivés en fin de matinée avec le premier train jaune nous font à manger pour ce soir, quoi.
Du coup, là, c'est la fin de journée. Là, c'est le moment de l'apéro, des grillades, de la pétanque. Ça aussi, ça fait partie du train jaune, de l'esprit.
Moi, quand je suis rentré il y a une quinzaine d'années, c'était partout comme ça. C'était le soir, on faisait une liste, tout le monde appelait pour savoir qui était où. Et on se retrouvait, on mangeait tous ensemble. Et là, maintenant, c'est vrai que ça s'est un petit peu perdu par endroit. Et ici, c'est resté à d'autres endroits. Mais pas partout.
Donc c'est plus qu'un train, en fait, le train jaune.
Le train jaune, c'est un lien social, aussi bien pour les cheminots, mais pour les usagers, pour les gens de Sardaigne, même pour ceux qui ne le prennent pas.